particulier pour vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pendant que les enfants sortent, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin, comme tous les dimanches matins. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Et nous allons lire aujourd'hui les 20 premiers versets. L'évangile de Luc au chapitre 2 et nous allons lire aujourd'hui les 20 premiers versets. Voilà, je vous laisse tourner les pages de votre Bible ou tapoter l'écran de votre smartphone ou tout autre élément électronique que vous auriez amené avec vous pour suivre la lecture de ce texte. Luc chapitre 2. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dansé l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre : Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Tu l'as fait parvenir jusqu'à nous pour qu'aujourd'hui encore tu puisses nous enseigner au travers d'elle. Et ce matin, nous voulons prendre le temps, Seigneur, de nous arrêter sur le texte de la naissance de ton Fils, Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi ce que tu as à nous donner. Puisses-tu faire de moi, Seigneur, ce matin un serviteur fidèle de ta parole et que tu veuilles encore me bénir et bénir mes frères et sœurs au travers de la prédication que je vais apporter. Que ta parole nous parle, qu'elle soit vivante pour nous et qu'elle change quelque chose durablement dans notre vie, Seigneur. Amen. Un jour, dans une forêt, il y avait trois petits arbres qui parlaient entre eux. C'est bien le texte de ma prédication. Moi, dit le premier, j'aimerais être utilisé pour le mobilier d'une personne importante. J'aimerais qu'on me regarde et j'aimerais qu'on m'admire. En ce qui me concerne, rétorqua le second arbre, je veux que l'on m'utilise pour la confection d'un gigantesque bateau. Je veux faire le tour de la planète et que l'on parle de moi tout autour du monde. Et toi ? Demanda-t-il au dernier. Moi ? Mon désir, c'est d'être utilisé pour la confection d'un édifice si grand et si extraordinaire qu'il faille lever la tête bien haut pour le regarder. Les trois petits arbres poussèrent et poussèrent tellement qu'un jour ils furent coupés et leur bois fut utilisé par des artisans. Pensez-vous que ces arbres ont réussi à atteindre leur but, leur projet. D'après vous, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces arbres ? Vous avez le droit de faire des propositions. Est-ce que vous pensez, en tout cas vous pouvez au moins répondre à cette question, est-ce que vous pensez que leurs vœux ont été exaucés ? Pourquoi non ? Pourquoi non ? Mais parce que c'est des arbres orgueilleux, voilà pourquoi non. Bien sûr, c'est des arbres orgueilleux. Ils ont réussi, tous. Ils ont tous eu ce qu'ils voulaient. Le premier, si vous vous souvenez, il voulait être utilisé pour le mobilier d'une personne importante. Eh bien, l'histoire, inventée bien entendu de toutes pièces par votre serviteur de ce matin, c'est que cet arbre, il a été utilisé pour construire une mangeoire. Et cette mangeoire, elle a été posée dans une étable, dans une petite ville de Bethléem. Le second, il voulait devenir un gigantesque bateau. S'il avait poussé plus tard, il aurait peut-être été utilisé pour le Titanic. Ma foi, je ne sais pas si ça aurait été une grande victoire pour lui. Mais par contre, ça a fonctionné. Il a été utilisé pour confectionner un bateau, pour qu'un bateau soit construit, un bateau qui a fait le tour du monde et dont tout le monde a parlé. Et ce bateau pour lequel il a été utilisé, c'est la barque dans laquelle Jésus a dormi la tête posée sur un coussin quand ses disciples étaient paniqués. Tout le monde connaît cette histoire. Depuis toujours et partout, dans le monde entier et dans toutes les langues, on parle de ce bateau. Et le dernier, on raconte qu'il a été coupé par des soldats romains. Plus tard, il a été taillé. Et puis on en a fait une croix. Et puis dessus, on a cloué un homme, Jésus-Christ. Et il y a plein de gens qui ont regardé cette croix, qui ont levé la tête bien haut pour la voir. Ils ont tous réussi. Ce qu'ils voulaient, ils l'ont tous eu. Mais ils ne l'ont pas eu comme ils l'auraient imaginé. Et la morale de cette histoire, c'est que la grandeur, elle ne se voit pas toujours au premier abord. Et que parfois, il faut regarder plus loin que ce qu'on a simplement devant les yeux. Et c'est aussi ce que nous raconte l'histoire de Jésus ce matin de sa naissance. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur trois caractéristiques de Jésus, de sa venue, de sa naissance. Et ça, pour nous aider à reconnaître sa grandeur. On va voir tout d'abord que la naissance, la venue de Jésus, elle est un mariage de simplicité et de grandeur. Tout d'abord en ce qui concerne le lieu et le moyen de sa naissance, mais aussi en ce qui concerne les messagers de sa naissance. Et pour terminer, en ce qui concerne les caractéristiques de Jésus lui-même. Cette histoire de la venue de Christ et de toute l'histoire d'ailleurs du ministère terrestre de Jésus est un mélange de grandeur et de simplicité. Notre texte présente la naissance de Jésus comme prenant place lors d'un recensement qui a été initié par l'empereur Auguste à l'époque où c'était Quirinus qui était gouverneur de la province. Et s'il y a ces éléments-là, c'est pour nous aider à dater à peu près le moment de la naissance de Jésus-Christ, pour savoir à peu près dans l'histoire quand est né Jésus. Alors je vous épargnerai l'exposé parce qu'il faudrait que je parte dans de longues explications. Mais c'est pour ça que Luc donne ces moments-là. Luc, c'est un historien, il a fait des recherches. Du coup, il donne des éléments qui nous permettent de prouver que ce qu'il dit, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est attesté qu'il y a eu historiquement un recensement à l'époque où ces hommes étaient en service. Et du coup, comme c'était la coutume à l'époque, comme le dit le texte, chacun doit aller se faire recenser dans la ville dans laquelle il est né, dans sa commune de naissance. Et du coup, Joseph va partir avec sa femme à Bethléem. Marie n'a pas encore accouché parce qu'il est dit que Marie, sa fiancée, attendait un enfant au verset 5, excusez-moi. Et pendant qu'ils vont être à Bethléem, pendant ce séjour à Bethléem, Marie, elle va donner naissance à Jésus, son fils premier-né. Et Jésus, il va naître en toute simplicité, dans une toute petite ville. Si vous vous souvenez les paroles du prophète Michée dans le 5e chapitre de son livre, dans Michée 5, il est dit que Bethléem était la plus petite des villes de Juda. En soi, elle avait un peu aucun intérêt, cette ville. C'était la plus petite des villes du territoire de Juda. Ça semble pas être bien important comme ville pour commencer sa vie. Elle semble pas avoir grand-chose de particulier, cette ville de Bethléem. Et en plus, avec le nombre de personnes qui étaient venues pour le recensement à Bethléem, Marie, Joseph et du coup Jésus, alors au départ dans le ventre de sa mère et ensuite dans les bras de sa mère, ils sont contraints de dormir auprès des animaux, dans une étable. Vive la propreté, bravo l'hygiène pour la naissance de l'enfant. C'est ça qu'on se dirait aujourd'hui. Dans quelles conditions il est né cet enfant ? Alors, ses parents auraient bien pu faire un peu un effort. quand même. Les gens auraient pu être sympathiques et laisser Marie, cette pauvre femme enceinte, avoir une place de choix. Ça marcherait si c'était les hommes qui décidaient de ce qui se passe. On entend parfois dire que le fait que Jésus soit né dans une étable et qu'il n'y avait pas de place pour lui et sa famille dans la pièce pour les autres, c'est un signe que Jésus a été rejeté dès sa naissance, etc. Ça n'est pas vrai. C'est une interprétation qui est populaire, mais le fait que quelque chose soit populaire ne fait pas que ce soit vrai pour autant. Ce qu'il faut savoir, et là c'est pour ça que c'est important de connaître un peu la culture biblique quand on lit, et la culture de l'époque quand on lit les textes bibliques, c'est que, en fait, c'était classique à l'époque que dans les maisons, il y ait une chambre, qu'on appellerait aujourd'hui une chambre d'amis, dans laquelle on pouvait accueillir des gens. Et comme il y avait le recensement et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus à Bethléem, même si c'était une petite ville, eh bien il n'y avait plus assez de place dans ce genre de pièces, et du coup, eh bien, c'était déjà quelque chose qui existait à l'époque et qui se faisait. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui a commencé cette espèce de mode, mais ça arrivait que si on n'avait plus assez de place pour loger les gens dans une pièce avec les autres, on les mettait dans l'étable auprès des animaux, parce que c'était un endroit dans lequel il faisait chaud, à cause des animaux. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez toujours été des personnes qui ont vécu dans les villes, mais si vous êtes entré une fois dans une étable ou dans une grange, vous savez que une vache, deux vaches, un bœuf, ben, ça dégage beaucoup de chaleur. Du coup, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet de la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de dire, voilà, simplement, Dieu a conduit la situation pour que Jésus se retrouve dans une situation très simple. Dieu a conduit pour que Jésus naisse d'une manière toute simple, dans une étable. Mais ce n'est pas un rejet particulier de la population de Bethléem. Personne ne le connaît, de toute façon, Jésus. Personne ne sait qui c'est. Il n'y a pas de raison de le repousser. Personne ne sait qui c'est. Donc quand vous le lisez, ne vous dites pas « ça y est, Jésus a été rejeté dès le début » parce que ce n'est pas vraiment juste. Mais voyez plutôt ça sous l'angle de combien la naissance de Jésus est marquée par la simplicité la plus extrême dans sa venue. Et pourtant, cette apparente simplicité de sa venue, eh bien, elle laisse transparaître une grandeur qui n'a pas d'égal. Bethléem, bien qu'étant d'après Michée, et s'il le dit, c'est la vérité, parce que c'est un auteur qui est inspiré, même si Michée dit que Bethléem, c'est la plus petite des villes de Juda, eh bien le texte nous dit qu'elle s'avère aussi, Bethléem, être la ville de David. David, c'est une figure hyper importante du peuple juif, parce que David, c'était un des rois que les juifs avaient eu. Et du coup, même si Bethléem est une toute petite ville, elle est la ville du roi. Celle où David est né. Et si le texte précise que Jésus est né dans la ville de David et que Joseph faisait partie de la famille de David, c'est que Luc veut qu'on comprenne qu'il y a quelque chose de royal dans la naissance de cet enfant. Même s'il naît dans une étable et même s'il est couché sur la paille d'une mangeoire et qu'il y a peut-être un bœuf qui dort à 2 mètres de lui. Dieu veut qu'on saisisse, qu'on comprenne qu'il y a quelque chose d'important dans cette naissance, c'est que malgré toute la simplicité de cette venue, il y a quelque chose de royal dans cet enfant. Jésus vient naître dans la ville de son ancêtre. Et comme il est de sa famille, puisque Joseph est de sa famille, eh bien il peut prétendre à devenir le roi d'Israël. Ça, c'est possible. Alors Jésus, il ne va pas dire, la première chose qu'il va dire en sortant du ventre de sa mère, c'est pas qu'il est le roi d'Israël, hein. Il va pleurer, comme un enfant normal. Mais le texte nous montre qu'au-delà de la simplicité de ce que vit Jésus pour sa naissance, il y a quelque chose de plus grand que la simplicité apparente. Dieu, il a utilisé un événement qui est somme toute humain, le recensement, pour ramener Joseph et Marie à Bethléem, parce qu'il voulait que Jésus naisse à Bethléem. Parce que si Jésus naît à Bethléem, alors il va accomplir les paroles de Michée qui dit « Bethléem, toi tu es la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël ». T'es la plus petite des villes, mais c'est de toi que sortira le roi qui régnera sur Israël. Et pour que cette prophétie que Dieu a donnée arrive, Dieu utilise le recensement pour faire aller Marie, Joseph et Jésus à Bethléem, pour que Jésus naisse là-bas et que, effectivement, celui qui régnera sur Israël naisse à Bethléem, comme son ancêtre David, celui qui annonçait le roi qui devait venir, qui est Jésus-Christ. De plus, Bethléem, en hébreu, ça signifie « la maison du pain ». Bon, c'est pas très bien prononcé, il faudrait prononcer Bethléem, mais ça veut dire la maison du pain. Et Jésus, plus tard, dans son ministère, il va se qualifier lui-même de pain de vie. Il va dire, moi je suis le pain qui peut vraiment vous nourrir. Du coup, Jésus, en venant à Bethléem, il vient tout simplement dans sa propre maison. Il vient chez lui. Et peu importe qu'il soit né dans une maison luxueuse, dans la chambre des hôtes, ou qu'il soit né à côté des animaux, Jésus est là chez lui. Sa naissance accomplit les prophéties que Dieu avait données au travers des prophètes. C'est ça qui compte. Il y a ce mariage de cette simplicité et de cette grandeur de Christ ensemble. Et c'est vrai que comme pour l'histoire des arbres, bah, si on considère que certains aspects, on a l'impression que Jésus, il est vraiment personne et que son histoire, elle n'a vraiment pas grand-chose d'extraordinaire. Mais quand on prend le temps de s'arrêter et de lire correctement, on se rend compte de ce subtil mélange entre la simplicité de Christ et sa venue et la grandeur de qui il est et de ce qu'il accomplit en naissant à Bethléem. La simplicité et la grandeur, ça se mêle dès la venue au monde de Jésus. Rien dans ce qui est visible à l'œil nu ne semble le distinguer d'un bébé ordinaire. Si vous aviez simplement vu cette scène, vous n'auriez pas pu dire que c'était lui qui allait régner sur Israël. Ça, on l'apprend parce que Luc nous le dit, parce que le Seigneur lui a révélé aussi ces choses-là, que les prophéties sont accomplies. Et du coup, Luc le met en lumière pour nous. Il est venu dans la ville de David parce que son père est de la famille de David. Si Luc ne nous le dit pas, on ne le saisirait peut-être pas, on n'y penserait peut-être pas et on passerait à côté. Mais Luc veut qu'on voit plus loin que les simples apparences humaines de la naissance de Jésus. Rien à l'œil nu ne semble distinguer Jésus d'un bébé ordinaire. Mais sa grandeur, elle se voit quand on prend le temps de s'arrêter. Elle se voit quand on regarde plus loin que l'aspect extérieur de Jésus. Quand on voit plus qu'un simple bébé. Et ce mélange divin de simplicité et de grandeur, il se voit aussi dans ceux qui sont les messagers de la naissance de Jésus. Les premières personnes à entendre parler de la naissance de Christ, ce sont des bergers. Ils sont en train de passer la nuit à veiller sur leur troupeau dehors. Alors oui, il est sûr et certain que Jésus n'est pas venu en hiver. Nous le savons. C'est un débat qui n'a plus besoin d'exister, mais je le redis pour ceux qui pourraient peut-être encore être sceptiques ou se questionner sur ce que j'en pense. Je suis tout à fait convaincu que Jésus n'est pas du tout venu en hiver. Moi, je pense qu'il est plutôt venu au printemps ou au début de l'automne, mais pas en hiver, parce qu'en hiver, en Israël, il ne fait pas chaud la nuit et on ne laisse pas les animaux dehors en hiver. Donc quand on fête Noël en hiver, on sait très bien que ce n'est pas vraiment à ce moment-là que Jésus est né. Mais ce qui compte, ce n'est pas spécialement le jour, c'est ce qu'on fête. Et du coup, ils sont là, comme ça, voilà, ils sont en train de surveiller les moutons, peut-être ils discutent, ils ont peut-être fait un feu, ils sont peut-être en train de boire ou de manger quelque chose, j'en sais rien. Peut-être ils se plaignent de tous ces gens qui viennent et qui dérangent parce que, avec le recensement des Romains, voilà, c'est pénible, agaçant et tout ça. Et là, Dieu vient les rencontrer dans leur vie ordinaire. Dieu vient les rencontrer là où ils sont, dans leur champ avec leurs moutons. Là où ils sont, Dieu vient. Et vous savez, les bergers, c'était des paysans qui se trouvaient tout en bas de l'échelle sociale. Ils étaient considérés comme étant des gens malhonnêtes. Ils étaient considérés comme, finalement, des gens qui avaient une parole qui n'était pas fiable. Et ils étaient tellement pas fiables qu'ils n'avaient pas le droit de témoigner dans un procès. Et même s'ils témoignaient, de toute façon, leur parole, elle n'était pas prise en compte. On considérait que, de toute façon, on ne pouvait pas avoir confiance dans ce qu'ils allaient dire, que c'était des menteurs invétérés. C'est des mythos, quoi. Ils disent un truc, on n'est jamais sûr si c'est vrai ou pas. Du coup, leur parole, elle a zéro valeur. Elles ne comptent pas, leur parole. Ce qu'ils disent, c'est du flan. Ça ne compte pas, ce qu'ils disent. Ce n'étaient pas des bons témoins. Et pourtant, c'est bien à eux que Dieu a décidé de confier le message de la naissance de Jésus. Il fallait quand même que Dieu soit très sûr de lui pour confier ce message à des bergers. Il aurait pu le donner à des gens qui étaient un peu plus crédibles aux yeux de la société. Mais Dieu, de toute façon, est tellement sûr de ce qu'il fait qu'il peut confier son message à des bergers. Ça ne posera pas de problème par rapport au message et à ce que le peuple doit savoir. C'est à eux que Dieu donne ce message, alors que de toute façon, c'est des gens qui ne sont pas considérés. C'est à eux que Dieu confie le message de la naissance de Jésus, la naissance du Messie, la naissance du Sauveur d'Israël, celui qui était attendu et promis depuis des centaines et des centaines d'années. Ceux qui reçoivent la nouvelle de la venue du Sauveur, on en a parlé, je crois, la semaine dernière à l'étude biblique, pendant 400 ans plus ou moins, il n'y a pas eu de nouvelles révélations prophétiques pour Israël avant la venue de Jésus. Et les premières personnes à qui Dieu décide de confier la nouvelle que ça y est, celui que vous attendez, il est là, c'est des gens en qui personne n'a confiance. Nous, on n'aurait pas fait ça. On se serait assuré que ce soit des gens en qui on a bien confiance qui transmettent le message. C'est un ange qui vient vers eux, qui va leur annoncer la naissance du Christ. Et dans un premier temps, et je pense qu'on aurait sans doute été pareil, ça va provoquer chez eux une grande frayeur. Déjà parce que c'est inhabituel de voir un ange, et puis pour d'autres raisons encore. Et je pense qu'une des raisons qui crée aussi la grande frayeur aux yeux des bergers, c'est que la gloire de Dieu resplendit autour de l'ange. La gloire de Dieu est visible d'une manière matérielle pour ces personnes qui sont là. Moi, je pense que juste voir un ange, ça aurait suffi à m'effrayer. Mais la gloire de Dieu aussi est visible dans toute sa splendeur, dans toute sa pureté, dans toute sa grandeur. Elle est là. Le livre d'Ézéchiel, il nous raconte que la gloire va quitter le temple lorsque le peuple va partir en exil. Et qu'on voit dans le reste de l'écriture que la gloire de Dieu n'est jamais revenue habiter dans le temple comme elle était là avant l'exil. Et il faut attendre la venue de Jésus-Christ pour que la gloire de Dieu revienne en Israël. C'est Jésus qui ramène par sa naissance la gloire de Dieu en Israël. Cette gloire qui était partie tellement longtemps avant, elle revient par Jésus-Christ et c'est des bergers qui sont les premiers à voir la gloire de Dieu de leurs yeux. Alors ils ont vu une grande lumière, hein, parce que représenter la gloire de Dieu d'une manière qui soit compréhensible et accessible à des êtres humains, c'est bien compliqué parce qu'on est si limité face à la grandeur de Dieu. Mais ils voient cette lumière et ils comprennent la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Et face à cette grande frayeur des bergers, l'ange, il leur dit « N'ayez pas peur ». L'ange comprend qu'ils ont peur, qu'ils soient impressionnés, et on aurait été comme eux. Mais il leur dit « N'ayez pas peur », et il va leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Pour quelle raison? Pourquoi ils ne doivent pas avoir peur? C'est dans le texte, il n'y a pas de piège. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. L'Ancien Testament, il nous dit « On ne peut pas voir Dieu et vivre ». Avoir la gloire de Dieu, du coup, ça fait un peu peur quand même. À quel moment je vais mourir alors? Dans 10 secondes, dans une heure, je ne sais pas. Et il leur dit, si Dieu il se manifeste là, ce n'est pas pour venir vous punir ou vous juger. Dieu se manifeste maintenant, ici, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Votre sauveur est là. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de périr. Dieu ne vient pas vous juger, Dieu vient vous sauver à partir de maintenant. C'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer. La nouvelle dont il est porteur, ce sera une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Elle concerne tous les juifs de l'époque de Jésus, tout le peuple juif est concerné par ce qui se passe là. Et nous, par écho, par effet de domino, on est aussi concerné par ça. Mais au moment où l'ange vient, c'est d'abord le peuple juif qui est concerné par cette nouvelle. Et la grande peur des bergers, elle est invitée à laisser la place à une très grande joie. Ils avaient très peur, mais ils peuvent être encore plus joyeux qu'ils n'avaient peur. Ils sont invités à abandonner cette peur pour laisser la joie de ce que l'ange va leur annoncer remplir leur cœur, remplir toute leur personne. La venue de Jésus, c'est une nouvelle capitale pour le peuple qui est représentée ici par des bergers. Elle est capitale pour le peuple, elle va être sujet d'une très grande joie. Et le mot qui est utilisé ici, c'est un mot pour désigner la nouvelle, c'est un mot qui était utilisé en général pour annoncer une vraiment bonne nouvelle, une nouvelle qui était en général de la plus haute importance, et en général on utilisait ce mot pour parler d'une victoire militaire, d'un anniversaire, d'un couronnement, d'une naissance royale. Et la naissance de Jésus, c'est à minima aussi important que tous ces éléments rassemblés, et c'est encore plus. C'est la meilleure des bonnes nouvelles. C'est la meilleure des bonnes nouvelles qu'il aurait annoncées ici. Et l'ange y va donner des indications aux bergers pour qu'ils puissent aller constater par eux-mêmes que ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Il leur donne le lieu de naissance, la ville de David. Alors, ce n'est pas juste pour qu'ils sachent où aller parce qu'ils n'auraient pas pu le deviner. C'est aussi pour leur faire comprendre que celui qu'ils vont aller voir, il est né dans la ville du roi. Ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas anodin. Que l'ange dise « il est né dans la ville de David ». D'ailleurs, il ne dit pas Bethléem. Hein. Il s'attend à ce que les bergers sachent que la ville de David, c'est Bethléem. Et il va donner une rapide description, mais une description qui est suffisante. Et qui pourtant, si on nous l'a donnée aujourd'hui, nous mettrait peut-être à mal, parce qu'il dit simplement que celui qu'ils doivent aller chercher, eh ben, c'est un nouveau-né dans ses langes et il est couché dans une mangeoire. Alors heureusement qu'il est couché dans une mangeoire, parce qu'un nouveau-né dans ses langes tout court, il y en avait sans doute d'autres. mais il y a des signes distinctifs. Et il leur dit, voilà à quoi vous allez reconnaître celui que vous devez aller voir. C'est un bébé, il est dans ses langes, dans ses couches, dans sa, comment on appelle de nouveau ce truc, dans sa gigoteuse, si vous voulez, et il est couché dans une mangeoire. Voilà celui que vous devez aller voir. Voilà celui qui va amener la paix sur Israël et qui régnera. Voilà celui qui est né dans la ville du roi David. C'est celui-là que vous devez aller voir. Nous, je pense que dans notre incrédulité, on aurait peut-être dit, t'es sûr ? Parce que vraiment, vu, enfin, voilà, je juge pas, mais à vue humaine, ça n'a pas l'air fou quand même. Mais ils n'ont pas de doute. Ils n'ont pas discuté avec l'ange. De toute façon, ce qu'ils ont vu a suffi à les convaincre qu'ils disaient la vérité. Ils n'ont pas discuté. Et pour conclure cette annonce, en plus de l'ange qui est venu porter le message, s'ajoute une multitude d'anges qui chantent les louanges de Dieu. Et ils disent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Ce chant, il est destiné à rendre gloire à Dieu pour le contenu de l'annonce qui vient d'être faite. On vient d'annoncer une bonne nouvelle, maintenant on loue Dieu pour le contenu de cette nouvelle parce qu'il est vrai, il est réalité. Cette bonne nouvelle, elle a été faite chair dans la personne d'un petit bébé qui est couché dans une mangeoire, dans la ville de David. Cette gloire, elle doit retentir tout en haut dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Elle doit retentir au plus haut dans le ciel, mais aussi jusque sur la terre. Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. La naissance de Jésus, elle concerne toute la création. Tout le monde est concerné. Personne ne peut échapper à l'importance de la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. De tout en haut dans le ciel jusque tout en bas sur la terre, toute la création doit louer et rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu a fait quelque chose qui va bouleverser le cours de l'histoire du monde. Vous ne trouverez aucun événement qui bouleversera l'histoire du monde autant que celui-ci, si ce n'est le retour de Christ. Mais de tout en haut dans le ciel jusque tout en bas sur la terre, toute la création doit entendre que gloire est rendue à Dieu parce que le Sauveur est arrivé sur cette terre ce soir-là. C'est important. C'est de la plus haute importance. Le monde est à un tournant de son histoire comme jamais il n'en a connu. Et cet hymne que les anges y chantent, c'est un hymne qui annonce la paix, le shalom qui est si cher aux Juifs. Et l'ange dit « Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ». Et ici, c'est d'abord le peuple juif en particulier qui est visé par cette déclaration. Dieu rappelle son amour pour le peuple juif. Et parce qu'il aime le peuple juif, il a accompli les promesses qu'il avait faites. Il a envoyé le Sauveur, celui qui va pouvoir régner, parce qu'il a de l'amour pour son peuple et qu'il est fidèle dans ses promesses. Les Juifs étaient appelés à voir l'amour de Dieu manifesté dans l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu aime le peuple juif, il veut le sauver, et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Il est venu annoncer la paix rétablie entre Dieu et les hommes, pas la paix que les Juifs attendaient, la paix militaire, le départ des Romains ou quoi que ce soit. Il est venu annoncer une paix qui est plus importante, c'est la paix entre Dieu et les hommes grâce à Jésus-Christ. Ce shalom si cher aux Juifs est accessible pour eux en Jésus-Christ. C'était le cas il y a 2019 ans, plus ou moins selon les calculs, et c'est possible encore aujourd'hui pour eux et pour nous. Jésus est d'abord venu pour sauver les Juifs. Jésus le dira hein, parfois d'une manière qui nous blesse un peu quand on n'est pas juif, où Jésus va dire à un moment « Mais moi je suis venu que pour les brebis d'Israël ». Et là on se dit « T'es gentil, mais c'est pas ça que la Bible elle dit ». Alors, il faut le lire dans son contexte, bien sûr. Mais Jésus est venu d'abord pour accomplir les promesses qui avaient été faites au peuple juif. Et ensuite, la promesse nouvelle s'ouvre aussi pour nous. La paix vient, les Juifs peuvent être sauvés de leurs péchés, les hommes que Dieu aime peuvent être sauvés de leurs péchés. Jésus amène la paix, et ensuite nous aussi, qui ne sommes pas juifs, eh bien nous pouvons bénéficier de toutes ces mêmes choses, de la même manière qu'eux. Et les bergers, ils vont donc aller porter ce message à Bethléem. Ils ont toute confiance dans les paroles des anges. En même temps, avec tout ce qu'ils ont vu, quelle démonstration extraordinaire. Est-ce qu'ils pouvaient encore douter ? Ils ont toute confiance dans la parole des anges. Elle est véridique pour eux, ils n'en doutent pas. Le verset 15 rapporte les paroles des bergers qui disent « Allons voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Il n'y a pas de doute dans ce qu'ils sont en train de dire ici. Ils ne disent pas « Allons voir, on va aller vérifier si on ne vient pas encore de se faire arnaquer par des démarcheurs passés comme ça par là. Allons voir si peut-être, effectivement, il y aurait un bébé dans une mangeoire. » Ils ont confiance, ils ont foi que ce qu'ils ont entendu, c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'ils disent « Allons voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils sont certains que la nouvelle, elle est vraie, elle est juste, c'est la vérité. Ils n'ont pas une once de doute, ce que l'ange a dit, c'est vraiment vrai et ils veulent le voir de leurs propres yeux. Ils se dépêchent donc d'y aller, ils ont de l'empressement pour voir de leurs yeux le Seigneur. Vous vous rendez compte, ça fait des milliers d'années qu'on vous dit qu'un sauveur va venir et là, au milieu de nulle part, vous êtes juste en train de faire votre travail, il y a un ange qui vient et qui vous dit « Ça y est, maintenant c'est fait !» Mais on va pas dire, on fait la nuit et puis on va voir demain matin. Non, on y va tout de suite. Ça fait des milliers d'années qu'on attend la libération. Ça fait des milliers d'années qu'il y a cette promesse. Papa et maman, ils nous l'ont dit, et puis nos grands-parents, et puis les grands-parents d'avant, et puis encore ceux d'avant. Toutes les fêtes de famille, ils ont rappelé la promesse. Tout le temps, à toutes les fêtes. Alors si maintenant c'est devenu vrai, on va voir ça. On veut voir de nos yeux la réalisation de la promesse. Quand ils arrivent sur place, ils trouvent tout comme ça avait été annoncé. Ça alors. Ils trouvent tout comme ça avait été annoncé. Et eux, les bergers, les hommes sans parole, les hommes non fiables, ceux qui ne pouvaient pas être témoins dans des procès, ils vont être les porteurs d'une nouvelle qui les dépasse. Ils ont été témoins de la gloire de Dieu qui a rayonné autour d'eux. Eux en qui on n'a aucune confiance, eh bien maintenant, ils sont porteurs de la plus grande des nouvelles pour le peuple d'Israël. Dieu se moque bien qu'on n'ait pas confiance en eux. Il leur confie son message parce que ce message dit la vérité et que Dieu prouvera que ce message est la vérité. Peu importe la faiblesse humaine des témoins, Dieu les utilise comme il veut et c'est lui qui prouvera qu'ils disent la vérité. Alors bien entendu, ceux qui les entendent, ils sont étonnés. Ils n'ont pas pris ça pour argent comptant, comme ça, facilement. Ils sont étonnés. Peut-être qu'ils ont des doutes par rapport à la parole des bergers, parce qu'on connaît maintenant, je l'ai dit, on connaît la réputation des bergers. Verset 18, tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Il y a vraiment de l'étonnement qui naît quand ils entendent tout ce qu'ils disent. En même temps, imaginez-vous que quelqu'un dont on dit qu'ils n'ont pas de parole vienne, vous dise « Alors on a vu un ange ». Il nous a annoncé que le Messie était venu, que la promesse, c'est bon, c'était accompli, que c'est lui, le bébé. Et ensuite, une fois qu'il a fini, il y a tout plein d'autres anges qui sont venus, qui se sont ajoutés avec la gloire de Dieu et le premier, et puis ils ont chanté. Pas si évident que ça non plus. Il faut quelque chose, il faut une chose particulière pour arriver à croire à cette nouvelle. Il faut la foi. Il faut la foi et c'est peut-être pour ça qu'il y a cet étonnement, parce que la nouvelle est tellement extraordinaire que forcément on se dit « Vraiment ? Vraiment ?» Même nous, des fois, pour des choses qui ont beaucoup moins d'importance, on dit « Vraiment ? Tu peux le prouver peut-être ? Tu as une preuve de ce que tu avances ?» Marie, elle a confiance dans la parole des bergers. Il y a quelque chose de différent entre les témoins de l'avenue des bergers et Marie. Il y a quelque chose de différent. Le texte nous le montre en disant qu'elle conserve le souvenir de ses paroles et qu'elle y repense souvent. Sans doute, elle ne voulait pas oublier qui était vraiment son fils. Et elle avait besoin peut-être aussi de vraiment le réaliser. Et plus tard, lorsque Marie et Joseph iront au temple et qu'ils verront Siméon... Siméon va lui dire, il va parler qu'à Marie à ce moment-là, il ne parle pas à Joseph. Il va lui dire, c'est verset 34, « Siméon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Merci Siméon, ça fait plaisir, Marie avait besoin de vraiment réaliser qui était Jésus-Christ pour accepter tout ce qui allait lui arriver. Elle avait besoin de se rappeler de se souvenir de la parole des anges, qui rappelle que son fils est un instrument de paix et qu'il est le roi pour Israël. Pour accepter que vers la trentaine, il s'en aille et qu'il vadrouille dans tout Israël avec des personnes qui le suivent, avec des gens qui veulent le faire mourir tous les quatre matins, pour ensuite accepter que son fils va être crucifié alors qu'il est innocent, qu'il va mourir et que plus tard il va ressusciter. Elle a besoin de se souvenir de ces choses-là. Parce que c'est quand même son enfant. Elle l'a porté 9 mois. Elle a changé ses couches. Bah oui, hein, Jésus, c'était un enfant normal. Hein. Elle a pris soin de lui. Elle s'est occupée de lui. Elle a veillé sur lui. C'est pas comme ça. Un matin, Jésus a dit, écoute, maintenant j'y vais. Hein. Et puis elle a dit, salut. C'est pas si simple. Hein. Déjà, alors, il paraît, moi je suis pas encore à ce stade, hein, mais déjà de penser que Zoé, elle va aller à l'école, des fois je fais, non, j'aimerais bien qu'elle reste avec nous. Mais déjà, des fois, quand les enfants partent simplement à ce qu'ils prennent un appartement, hein, c'est dur. Alors que des fois, c'est juste la rue en face, hein, ou la ville à côté. Vous réalisez combien Marie, elle avait besoin de se rappeler de ses paroles pour que elle puisse regarder Jésus et sa vie et être en paix. Elle avait besoin de se souvenir de ça. On ne pense pas toujours beaucoup à Marie et à Joseph. Hein. Ça n'a pas dû être facile pour eux non plus. Alors Joseph est sans doute décédé assez rapidement, puisqu'on n'en parle plus du tout après. Mais pour Marie, ô combien ça a dû être difficile. Quand Jésus, aux noces de Cana, lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Moi, j'aurais répondu ça à ma mère, elle aurait dit, assieds-toi, on va parler. Et qu'elle dit, écoutez-le. Parce qu'elle a compris que ça a commencé maintenant. C'est pas facile, hein, c'est pas simple. Et elle a besoin de se rappeler les paroles des anges, parce que ça l'aidera à accepter tout ce qui va se passer. Mais elle n'a pas de doute, elle croit. En même temps, elle a eu déjà d'autres révélations avant, et ça s'ajoute à ce qu'elle a eu d'avant. Ça ajoute à ce qu'elle a eu d'avant. Mais ayant constaté que l'ange avait dit vrai, les bergers vont repartir, ils vont louer et ils vont glorifier Dieu. Ce que les anges eux-mêmes ont fait quand ils ont rendu gloire à Dieu, et bien maintenant les bergers le font aussi. Ils ont vu la promesse accomplie devant leurs yeux, ils n'ont eu aucun doute, ils ont cru et ils repartent et ils louent et ils glorifient Dieu de ce qu'ils ont vu. L'ange a bien dit la vérité. La promesse, elle est, ça y est, elle est enfin accomplie. C'est fait. Eux qui étaient méprisés, qui étaient rejetés, qui étaient jugés par leurs frères juifs, ils deviennent messagers de la révélation qu'ils ont reçue de la part de l'ange. Dieu confie son message à des personnes qui sont humainement sans gloire, pour que sa gloire à lui, elle soit d'autant plus éclatante. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Je n'ai aucun droit intrinsèquement en moi-même, en ce que je suis, d'être messager de la parole de Dieu. Mais c'est Dieu qui m'a choisi et fait messager pour sa parole. Ce n'est pas moi qui choisis. C'est Dieu qui décide et qui m'a appelé. Ce qu'il a fait avec les bergers, il le fait avec moi, il le fait avec vous aussi. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être extrêmement reconnu ou d'être extrêmement qualifié ou d'être devenu parfait pour pouvoir avoir une utilité pour le royaume du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de notre vie, il faut qu'on soit comme on était au tout début, parce que là, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ça veut dire que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, on peut le faire et Dieu pourvoira à tout ce qui est nécessaire. Les bergers ne se sont pas demandé « Eh !» Personne ne va nous croire. On retourne. Ce n'est pas leur problème qu'on les croit ou pas. Eux, ils veulent voir. Et quand ils voient que c'est la vérité, du coup, ils témoignent. Peu importe qu'on les croit ou qu'on ne les croit pas. Il y a des gens incrédules et puis il y a des gens qui croient. Et c'est pareil pour nous. Il y a des incrédules et il y a des gens qui croient. Notre tâche, c'est de dire. Si ce que les bergers racontaient vrai, ce n'est pas parce qu'ils sont spécialement dignes de confiance. Mais c'est parce que le message qu'ils annoncent, il vient de Dieu. Jésus, Dieu, place son message glorieux de paix pour les Juifs dans la bouche des bergers qui ont eu le privilège de voir la gloire de Dieu resplendir autour d'eux et d'entendre un ange leur annoncer la venue du Messie. La grandeur et la simplicité, elles se sont côtoyées ici une fois encore. Grandeur de l'ange, grandeur de l'annonce, grandeur de la gloire de Dieu, grandeur de la myriade d'anges qui arrivent pour parler à quelques bergers insignifiants aux yeux des hommes. Nous, on n'aurait pas parié sur des bergers, mais Dieu l'a fait. Parce que Dieu a confiance, parce que Dieu sait qui il est. Et que personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut, comme il le veut. Et pour terminer, cette cohabitation de la grandeur et de la simplicité, elle se trouve aussi dans Jésus lui-même. J'ai voulu garder ça pour la fin parce que c'est le plus important pour nous. Oui, dans le lieu et la manière de sa naissance, on voit la grandeur et la simplicité. On voit la grandeur et la simplicité aussi au travers des anges et de la gloire de Dieu, mais aussi au travers des bergers. L'ange, il annonce la nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie de la façon suivante. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, dans la ville du roi. C'est lui le Messie, le Seigneur. Une attente de centaines d'années est enfin terminée pour le peuple juif. Enfin, on n'a plus besoin d'attendre ce qu'on a passé toute notre vie presque à attendre. Et Siméon, il le dit quand il voit Jésus, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Seigneur, je peux m'en aller parce que enfin, j'ai vu que cette promesse qu'on m'a dite tout le temps, toute ma vie, elle est accomplie. Maintenant, c'est accompli et je peux partir en paix. » Un sauveur, quelqu'un qui va venir en aide au peuple, quelqu'un qui va les aider et leur apporter le salut, vient de naître dans la ville de David, dans la ville du roi. La conglomération des termes sauveur et ville de David, elle résonne pour les Juifs comme la naissance d'un futur roi qui sera digne de régner parce qu'il est de la bonne famille pour régner et qui sera capable de secourir son peuple parce que c'est un sauveur, c'est le Seigneur, c'est le Messie. Nous, on réalise mal. Mais si on était à l'époque et qu'on pouvait demander aux Juifs qui ont cru en cette nouvelle qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, eux, ils pourraient peut-être mieux nous expliquer ce que ça veut dire. Ça fait des centaines et des centaines d'années qu'ils attendaient. Ça y est, c'est fait, c'est arrivé, c'est là maintenant pour eux. Ils vont de nouveau avoir un roi qui va les sauver, qui va les délivrer. L'ange y précise, c'est lui le Messie. C'est le Christ, c'est celui qui va apporter le salut. Ce bébé-là, dans sa mangeoire, c'est lui qui va apporter le salut. Ce salut qui a été promis, qui a été attendu. Il est le Seigneur, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui régnera sur vous. Ce bébé, c'est lui qui fera tout ça. Et du coup, quand il annonce tout ça, l'ange, on s'attend que dans la suite du développement, les choses elles soient toujours aussi glorieuses. Il est né dans la ville du roi, il a l'air d'être de famille royale, il est divin, il va nous sauver, c'est le Messie, la promesse, elle est faite, ça y est, c'est accompli, c'est extraordinaire, génial, dis-nous en plus. Ok, on va en dire plus. C'est le Seigneur, il est de la lignée de David, alors. Quelle nouvelle extraordinaire. Dieu a tenu parole, il a fait ce qu'il a promis par la bouche des prophètes. Et ce sauveur qui vient de naître, extraordinaire. C'est un nouveau-né. Réalisez bien que ça veut dire que ce n'est pas tout de suite. Il faudra encore attendre un peu. Mais pourtant, c'est déjà là parce que la promesse a été tenue, elle a été accomplie. À partir du moment où Jésus est là, les Juifs peuvent être certains que ce qui a été promis arrivera. Mais on se dit, après tous ces termes extraordinaires, on s'attend à quelque chose d'un peu plus extraordinaire encore. Mais non. Ce sauveur qui vient de naître, c'est un nouveau-né, c'est un bébé. C'est un bébé. On n'a pas de tout petit bébé aujourd'hui, des fois on en a le dimanche. Mais si vous voyez un tout petit bébé comme ça qui ne peut même pas tenir sa tête, il faut la tenir parce que on se dirait waouh. Mais du coup, il va encore falloir attendre. C'est pas demain que les Romains ils seront dehors, hein. En plus tard, ils se rendront compte que ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Et certains seront vraiment déçus. Il faudra encore être patient pour recevoir le salut, pour qu'il soit effectif. Ce roi, il va être trouvé dans ses langes, il va être couché dans une mangeoire, dans une étable. Ce n'est pas très royal. tout ça, au point de vue des hommes. Il y a un sacré contraste entre la réalité humaine du Sauveur et la grandeur de ce qu'il est aux yeux de Dieu. C'est lui le Messie, le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui va vous sauver, c'est lui qui sera votre roi. Ce petit bébé dans ses couches, c'est lui. On ne s'attend pas à une telle description. En tout cas, je ne crois pas que si j'avais été les bergers, je me serais attendu à ça. Alors un bébé peut-être, parce qu'il vient de naître, donc on n'est quand même pas naïf. S'il vient de naître, c'est forcément un bébé, on n'est pas à l'âge de 30 ans, ou de 20 ans, qui était l'âge pour commencer à régner. Mais on s'attend peut-être au moins à ce qu'il soit né quand même quelque part, qui montre un peu plus sa gloire, peut-être dans un palais, ou en tout cas dans une maison, mais pas dans une étable avec des animaux, dans une mangeoire avec de la paille. On ne s'attend pas du tout à une telle description, et c'est pour ça que les mages, ils vont aller voir Hérode. C'est logique, si le roi des Juifs est né, Hérode, lui, l'empereur, il doit savoir quelque chose de cette histoire-là. Sauf que Hérode, il va tomber des nues. Hérode, il n'en sait rien. C'est même lui, après, qui va dire, il est censé naître où, au fait, le Messie ? C'est lui qui va demander. Mais les mages sont allés là-bas parce que ce qui qualifie Jésus faisait penser qu'il serait né dans une famille royale qui vit vraiment comme une famille royale. Mais pourtant, malgré tout ça, c'est bien cet enfant qui va sauver les Juifs de leurs péchés, et les non-Juifs avec. C'est bien lui qui sera leur roi, leur Messie, leur Seigneur, leur pain de vie, celui qui accomplit la promesse faite à David et qui disait « Je mettrai un de tes descendants pour toujours sur mon trône ». La royauté sera pleinement accomplie en Israël par Jésus-Christ. Et comme je le disais tout à l'heure, comme le dira Siméon quand ses parents amèneront Jésus au temple, « Mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. » À la fois, Christ vient particulièrement pour les Juifs, mais pas que pour eux, mais pour tout le monde. Pour les gens de toute nation, Dieu a suscité un Sauveur pour eux. Tout ce que Jésus sera pour les Juifs, il le sera aussi pour les non-Juifs. Et s'il n'y avait que les Juifs qui seraient sauvés, Chantal serait toute seule ici. Et du coup, il faudrait qu'elle s'auto-prêche si elle n'a pas quelqu'un pour lui parler. Mais aujourd'hui, on peut être tous là parce que la venue de Jésus-Christ a ouvert les portes du salut à tous les Juifs et à tous les non-Juifs qui sont prêts à reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. La grandeur du Fils de Dieu incarné contraste avec la simplicité de l'incarnation. Oh oui, Christ est bien le Messie, il est bien de la famille de David. Oh oui, Christ est bien le Sauveur, le Seigneur, celui qui amène la paix. Il est bien Dieu. Mais il n'a pas cherché à faire jouer son égalité avec Dieu. Il a pris notre condition à nous pour venir nous rencontrer là où on était, dans la simplicité. Parce que si Jésus avait été le roi sur l'escabeau tout à l'heure, comme a fait Marie-Laure, ceux qui étaient tout en bas, les gens comme vous et comme moi, ils n'auraient rien trouvé d'intéressant à ce roi. La grandeur de notre fête de Noël, de notre manière de fêter Noël, c'est que celui qui était Dieu s'est fait petit enfant. Il a pris une nature semblable à la nôtre. Il a accepté d'être comme nous pour nous sauver. Et c'est vrai, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est vrai. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas personnellement pour soi-même, ça reste la vérité. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a accompli. Il n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu. Et il a accepté de ne pas faire jouer son égalité avec Dieu, de ne pas vivre dans des conditions royales comme il aurait eu le droit parce qu'il est Dieu. Il a accepté toutes ces choses-là pour nous, parce qu'il a de l'amour pour nous. Parce qu'il a eu de l'amour pour moi et pour chacun d'entre vous individuellement, personnellement. Et que s'il y en a ici aujourd'hui qui ne connaissent peut-être pas encore le Seigneur, Dieu a de l'amour pour vous. Et c'est possible de dire, oui, je reconnais bien toutes mes erreurs, tous mes péchés, toutes mes faiblesses, tout ce que j'ai mal fait. Et moi aussi, j'aimerais bien être en relation avec Dieu. Jésus a fait ce qu'il fallait pour, il suffit simplement de le reconnaître et de le vouloir et de le désirer. Oui, la grandeur et la simplicité se voient dans tout le récit de la venue de Jésus. Les deux se côtoient et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de Jésus. Ceux qui le côtoient, côtoient sa simplicité d'homme sur cette terre et y côtoient sa grandeur de fils de Dieu et de Dieu lui-même. Montrons au monde en ces fêtes de Noël que Jésus est plus qu'un enfant dans une mangeoire, sous un sapin, dans une crèche, dans le salon. Jésus a été un enfant. Il n'est plus un enfant. Il est un adulte mort et ressuscité, retourné auprès du Père, le corps marqué par les traces de sa crucifixion, preuve de sa mort et de sa résurrection et de sa capacité à nous sauver. Jésus n'est plus un bébé. Zoé, elle parle toujours de bébé Jésus. Mais je lui ai dit, avant c'était un bébé, maintenant c'est plus un bébé. Mais elle s'identifie forcément, elle a 2 ans. Mais nous, on doit arrêter avec Jésus le bébé. C'était le début de l'histoire. Quand Jésus reviendra en vainqueur sur les nuées et que tout œil le verra, ce ne sera plus un bébé. Tous ceux qui auront cantonné Jésus au rôle de bébé, une espèce de petite statuette moche sous un sapin à 3 francs, ils reconnaîtront qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Et on peut reconnaître ça maintenant et encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on doit désirer. Et nos fêtes de Noël doivent servir à ça, à conduire les gens à réaliser qu'on célèbre la naissance de Jésus qui a été un enfant, mais qu'aujourd'hui on ne célèbre plus un bébé, aujourd'hui on célèbre celui qui nous a sauvés, qui nous a rachetés de nos péchés par sa mort à la croix et par sa résurrection qui nous justifie devant Dieu. J'ai reçu pas mal de sollicitations ces derniers temps sur « Ah, qu'est-ce que tu penses de la fête de Noël ? Est-ce que vraiment c'est bien ? Est-ce que c'est pas païen ? Est-ce qu'on pêche pas en faisant ça ou quoi que ce soit ?» Si vos fêtes de Noël, elles vous conduisent à confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qui reviendra, qu'il a été élevé à la croix, qu'il est venu avec une situation d'être humain et qu'il reviendra en tant que Dieu, alors vous pouvez fêter Noël tranquille. Et si vous n'aimez pas le nom de Noël et que vous voulez le faire à une autre date, faites-le quand vous voulez. Il est de toute façon pas né en hiver. Mais louez Dieu et élevez Dieu et glorifiez Jésus-Christ pour qui il est. C'est ça qui compte. C'est ça le sens de notre fête de Noël. Célébrons Noël d'une façon différente. Prenez le pari. Ça demande de faire des efforts, ça demande de casser des habitudes. Si on est dans une famille qui n'est pas chrétienne, ça demande de peut-être accepter l'humiliation, les ricanements, les rires, les moqueries. Mais on peut et on devrait célébrer Noël d'une façon différente quand on sait qui est Jésus-Christ. Nous, on a dit à notre famille, on ne veut pas beaucoup de cadeaux pour Zoé et on n'en veut pas pour nous. Parce que ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça le plus important pour nous. Moi, je ne critique pas les gens qui font beaucoup de cadeaux. Hein, mais ce n'est pas le plus important pour nous. On peut laisser de côté les excès et les exagérations des célébrations et se réjouir avec simplicité. On peut aussi bien manger avec simplicité. Hein. On peut être heureux, on peut se réjouir avec simplicité. Mettons Jésus au centre de notre fête de Noël. Donnons-lui la place qui lui revient. Lisons les textes de la Nativité. Là, peut-être que certains seront gênés, mais ce n'est pas grave. Réduisons le nombre et la valeur des cadeaux qu'on offre. Hein, comme diraient Alan et Angela, de toute façon, tout partira. Hein. On ne gardera rien de ce qui est ici. On peut s'offusquer. Ah, Noël, c'est une fête païenne. Ah, le 25 décembre, c'est terrible. Si on ne change pas notre manière de faire, c'est d'abord la poutre dans notre œil à nous qu'on doit regarder. On peut fêter Noël différemment. Vous êtes tous chrétiens ici. Qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses différemment? Qu'est-ce qui nous empêche de les faire différemment? Si on le veut, on peut le faire différemment. C'est à nous de choisir. Ce n'est pas le monde qui va nous dire de faire différemment. Hein. Ah, si on attend du monde que le 25 décembre soit changé par le monde, on va être déçu. Hein. Mais si on a envie que ce soit différent, on peut faire que ça soit différent. Mais il faut le vouloir. Et ça ne sera pas moins heureux, moins joyeux. Ce sera différent, mais ce sera meilleur. Ce sera meilleur. Moi, j'espère que quand on demandera à Zoé ce qu'elle aura gardé, de ce dont elle se souviendra de ses Noëls quand elle était petite, j'espère qu'elle se souviendra de plus que juste le nombre des cadeaux ou le sapin. C'est pas facile, hein, je dis pas que c'est simple. Nous-mêmes, avec Chantal, on essaye de faire que Noël soit différent. Puis, des fois, voilà, on se heurte aux habitudes, aux traditions. Puis, on n'ose pas proposer autre chose. Donc, je suis pas en train de vous dire, moi, j'ai tout compris, j'ai tout réussi. Hein. Moi, je suis avec vous dans le bateau. Hein. on rame ensemble, hein. Mais on peut faire que ça soit différent. À l'exemple des bergers, on peut louer et rendre gloire à Dieu à notre tour. La paix avec lui, avec Dieu, elle nous est acquise par Jésus, nous, ses enfants qu'il aime. À l'exemple de Marie, on peut serrer dans notre cœur les paroles de l'ange rapportées par les bergers. N'oublions jamais qui est Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore pour nous. Et soyons prêts, nous aussi, avec notre simplicité, avec notre fragilité, à simplement être messagers du Seigneur comme l'ont été les bergers, qui n'ont pas réfléchi une seule seconde et qui ont dit on va aller voir ce qui nous a été dit et qui l'ont raconté. Cet après-midi, on aura encore une réunion d'évangélisation. Ben, je vais me retenir là encore. Ce sera moins facile parce que mon public ne sera pas acquis à ma cause. Alors, les gens, j'imagine, ne vont pas me lancer des choses au visage. Mais je me présenterai en disant au Seigneur, moi, je ne suis pas capable de transformer ces gens. Moi, je ne peux rien faire pour eux, spécialement. Mais je peux leur apporter la parole que tu as mise sur mon cœur et toi, tu peux l'utiliser pour faire quelque chose. Moi, je suis un peu qu'un berger. Et je vais témoigner à des gens qui seront peut-être incrédules en entrant. Certains seront peut-être encore incrédules en sortant. D'autres auront peut-être changé d'avis. Mais si je regarde à moi-même, je ne le ferai pas. Du coup, je ne regarde pas à moi-même. Je fixe mes yeux sur Dieu et je le ferai. J'accomplirai ce que Dieu m'a demandé de faire. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Vous n'avez pas besoin d'être moi pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'être les bergers pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'être les apôtres pour le faire. Ce que vous êtes est suffisant pour être porteur du message de l'Évangile. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les messagers. C'est le message et celui dont vient le message. Alors je vous encourage que ces fêtes de Noël soient pour vous un moyen aussi de témoigner. Et si vous voulez que Noël soit différent, fêtez différemment. Ne vous en privez pas. Faites-le. Je vais prier pour terminer. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que par Jésus-Christ, la paix a été instaurée entre toi et nous. Cette paix que tu promettais au peuple juif qui est venu en la personne de Jésus-Christ, ce bébé dans une mangeoire, cette paix, elle est devenue réalité par sa mort et sa résurrection, Seigneur. Je veux te remercier parce que ce que je suis aujourd'hui, je te le dois à toi entièrement. Je n'ai rien amené pour mon salut, si ce n'est mon désespoir, ma faiblesse, mon péché devant toi. Et en déposant mes péchés devant toi, j'ai accepté que toi, tu pouvais les effacer, que tu pouvais ne plus en tenir compte. Mais pour ça, il a fallu que Dieu, toi, mon Père, tu envoies Jésus-Christ, ton Fils, sous la forme d'un petit enfant qui va ensuite grandir et qui va un jour me sauver. Et c'est une vérité qui est encore accessible, Seigneur, aujourd'hui. C'est une vérité, Seigneur, qui est vraie pour chacun d'entre nous qui avons reconnu en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Je te prie pour que nos fêtes de Noël témoignent de cette vérité. Que nos fêtes de Noël soient pour nous un temps de réjouissance, un temps de joie, un temps où on peut vraiment être heureux parce qu'on se dit aujourd'hui, on se rappelle que Jésus est venu comme un enfant, qu'il a grandi, qu'il est devenu un homme et qu'un jour il reviendra sur les nuées, que je le verrai et que j'irai vers lui, j'irai auprès de lui et je serai avec lui pour tout le reste de ma vie. C'est ça le vrai beau cadeau de Noël. C'est pas ceux qu'on peut placer sous le sapin. Le vrai beau cadeau de Noël, c'est que toi, tu as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Et je te remercie du plus profond de mon cœur avec la faiblesse de mes mots. Je te dis merci de m'avoir sauvé et d'avoir sauvé mes frères et mes sœurs qui sont ici avec moi aujourd'hui. Amen.